Votre très beau livre s'appelle Le nom sur le mur, qui est paru il y a pas très longtemps, qui est paru il y a moins de 2 ans chez Gallimard, qui vient de sortir en folio. C'est aussi l'actualité de ce livre. Un film donc sur ce maquisard qui, pour vous, devrait ne pas être oublié. Alors, un livre qui devient un film, c'est fréquent. On appelle ça, on scénarise, etc. C'est fréquent, mais un texte comme le vôtre qui devient un film, c'est beaucoup plus rare. Alors, je vais commencer par une question toute simple. Qu'est-ce qui fait que ce texte est devenu un film? Pourquoi en avoir fait un film? Est-ce que c'est votre idée?
Alors, c'est pas mon idée au départ, c'est celle de tout de suite de Médéric Albouy, qui est le producteur et qui est un ami, qui m'a demandé si l'idée d'en faire un film me plaisait. J'ai tout de suite répondu oui, parce que j'ai bien senti qu'il y avait une potentialité, d'abord parce qu'on avait beaucoup de documents iconographiques disponibles, à la fois des traits personnels, comme ceux qu'on voit, mais aussi, bien sûr, toute l'iconographie qu'on a sur la Seconde Guerre mondiale, qui est considérable, plus des documents qui sont spécifiquement liés à Dulfi et qui nous ont été prêtés par l'Association du cinéma Le Labor, qui a pris la succession donc du cinéma Eden, mais qui est une association de cinéphilie et qui a conservé les documents qui ont été pris pendant les années 1940 à 45 et dont on voit pas mal d'extraits qui concernent à la fois le Dulfi de la guerre, mais aussi quelques éléments concernant la résistance et l'occupation avec les troupes allemandes qu'on peut voir dans Dulfi. Donc on avait pas mal d'éléments. Ce qui était compliqué pour moi, et je l'avais dit depuis le départ à Médéric, c'était de passer d'un livre qui fait, disons, en lecture 4 heures, puisque c'est Charles Berling qui a aussi fait le livre audio, donc je sais que le texte dure 4 heures, à un film qui dure, disons, 50 minutes de texte, puisqu'il y a quelques autres inserts à l'intérieur qui limitent la durée du texte. Donc cette réduction d'un facteur 5, pour un auteur, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on va supprimer les 4/5, donc il y a un deuil, il y a un choix, mais il y a aussi, une restriction énorme sur les thématiques abordées. Ça veut dire que, comme on avait aussi décidé de conserver la séquentialité du livre, c'est-à-dire l'organisation en chapitres, sans supprimer aucun chapitre, parce qu'on avait trouvé que c'était la logique du livre n'avait pas de raison de changer quand on passait au documentaire. Et puisqu'on conservait un caractère un peu littéraire au texte, on voulait, disons, que cette continuité soit respectée, y compris dans la séquentialité. Et ça signifie que des chapitres ont été drastiquement réduits, que on en parlait tout à l'heure, mais on a une partie que je trouvais très amusante sur le film Le Titanic de Goebbels, dont je parle pendant 3 ou 4 pages, mais on peut pas parler de tout, et donc on a décidé que peut-être un jour on fera un documentaire sur le Titanic de Goebbels, mais que ça disparaîtrait de ce film-là, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à en dire. Donc voilà, il y a eu des choix qui ont été parfois difficiles. J'ai été aidé en ça par le fait que j'avais fait le texte exact, fait 48 000 signes, je le sais, donc, et que j'avais fait un texte au départ de quasiment 60 000, en disant maintenant que j'ai fait 60 000 signes avec un texte qui en fait 190, essayons de voir ensemble ce qu'on peut supprimer dedans. Et ça aide considérablement d'avoir une seconde opinion et un regard extérieur sur un texte qui, au bout d'un moment, devient difficile pour l'auteur à couper. Donc il faut que d'autres personnes disent « mais ça, c'est, on n'arrive pas à le garder, on va le supprimer, on va le garder ». Voilà. Donc il y a eu un travail à la fois de concision, parce que parfois je réduis sans… je fais fondre comme des champignons, voilà. Et parfois je coupe, comme on retire des bouts qui ne sont pas du gras, mais qui le deviennent parce qu'on n'a pas la place. Voilà.
Alors c'est
excusez-moi des métaphores cuisinières, mais c'est un petit peu ce qui me vient.
Le repas approche. Mais, voilà. Donc c'est un travail très singulier pour un écrivain de retravailler la matière de son texte. Habituellement, oui. On le retravaille sur épreuve. Vous avez travaillé sur épreuve. Donc c'est un nouveau travail. C'est quand même un travail littéraire pour vous.
C'est-à-dire que...
Ou alors c'était déjà autre chose.
Disons que c'est pas forcément un travail littéraire de retravailler sur un scénario. Ouais. Mais là, on n'est pas sur un scénario, on est sur un documentaire avec une voix off portée par un acteur comme Charles. Et Charles Berling. Enfin, il porte dans sa voix beaucoup de nuances, on le voit, et puis il est capable de faire des choses que moi je sais pas faire. Donc, on avait pris depuis le départ la décision que je ne serais pas présent sauf d'une manière un peu anodine En étant présent à l'image pour qu'il y ait une sorte de passage de relais entre Charles et moi, et que Charles fasse absolument tout ce qui était pour moi impossible, c'est-à-dire dire mon propre texte, que je ne sais pas faire, objectivement, en tout cas qu'il fait infiniment mieux que moi, et également être présent à l'écran avec... cette présence, quoi, qui fait que un acteur porte mieux un texte qu'un auteur. Donc c'est un choix qui, à mon avis, est très intéressant à faire, parce que je peux écrire des choses plus littéraires que si c'était moi, bizarrement, qui le disais. Parce que il a une capacité à dire des longues phrases que je n'ai pas, même si je sais que c'est lisible, c'est pas lisible par moi. Voilà. Et je le sens parfois quand il y a des incises que j'ai conservées, qu'il dit parfaitement. Mais que je ne saurais pas faire. Donc, être aidé comme ça par un professionnel de la lecture et de la comédie, c'est extrêmement intéressant parce qu'on travaille à plusieurs sur un objet qui finalement, quand je dis littéraire, c'est parce que je travaille les phrases dans une. Également, j'ai travaillé les phrases dans une sorte de linéarité qui n'est pas tout à fait celle d'un livre.
Oui, parce que c'était fait pour être lu quand même.
C'est fait pour être lu.
Comme du théâtre.
Voilà. Et il y a des toutes petites nuances parfois. C'est-à-dire que je remets dans l'ordre des choses qui, dans un livre, ne sont pas nécessairement dans cet ordre-là. Je fais des inférences naturelles dans le paragraphe que dans un paragraphe naturel, je pourrais traiter autrement. Mais comme on est dans une. J'ai fait de la radio beaucoup, donc je vois très bien les logiques qui sont celles de la radio et donc du cinéma. Dans un texte, et donc j'ai repris parfois le texte dans cette dimension-là. C'est intéressant à faire. Je pense que ça retire pas forcément le caractère écrit du texte, mais ça le fait passer autrement. J'ai vu pas mal de fois ce documentaire à force, et je trouve que ça continue à fonctionner, cette manière dont Charles passe à la fois de la voix off à la présence au cinéma.
C'est ça qui est particulier, parce qu'il est vous, il n'est pas vous en même temps.
Oui, c'est ça. Je trouve ça très bien.
Drôle de disposition narrative.
Ça marche.
Voilà. Et en plus, vous êtes un peu un fantôme dans le film. C'est-à-dire qu'on vous voit sans vous voir. C'était un choix du réalisateur, j'imagine.
Et oui, c'est un choix qu'on a fait à deux. C'est-à-dire que j'avais pas forcément envie d'être présent d'ailleurs dans le film, mais il pensait que ça serait peut-être plus logique par rapport à la présence très forte du « je », que je ne disparaisse pas complètement, j'étais finalement d'accord. Et puis, l'autre élément aussi, c'est dans cette réduction du texte, de donner des priorités, dès le départ, qui sont la présence de André, Simone, leur vie, ce qu'ils font à Dieulfi, que j'ai décidé de manière extrêmement, pas du tout arbitraire, mais de manière très volontaire, de conserver pour que ça soit autour de lui. Voilà, comme je le disais, c'est cette idée que c'est un documentaire autour d'un jeune homme et que l'histoire est à la fois son drame et son décor.
Et c'est aussi l'histoire d'une rencontre, quand même.
Oui,
André va devenir le personnage principal, mais vous le faites rentrer quand même dans ce moment où vous allez le découvrir.
Exactement.
Hein. Alors, il y a une phrase d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Je m'attache assez facilement, une citation de Romain Gary.
Ouais. Très facilement.
Comment vous êtes attaché à ce André? Ça n'a pas l'air d'avoir été si facile que ça, finalement.
Non, c'était pas une évidence. J'ai un ami qui est dans la salle, qui est Eduardo Berti, qui est venu dans cette maison, qui connaît la maison et Blanche aussi la connaît. Donc c'est une maison dans laquelle, au départ, quand je suis arrivé, j'ai passé 3 ans sans voir le André Chex. Et c'est à la faveur du confinement en 2020 que j'ai vu le nom sur le mur. Et ça n'a pas été pour moi immédiat de décider de faire un livre dessus, mais plus la date un peu d'échéance de l'anniversaire de ses 100 ans arrivait, plus ça m'a paru une évidence. Et puis, j'ai bénéficié, évidemment, de la notoriété du Goncourt, qui était importante et qui m'a permis 2 choses. D'abord, d'obtenir beaucoup plus de choses très rapidement.
Oui.
Ben oui. C'est-à-dire que quand j'appelais, je disais « Bonjour, je m'appelle Hervé Le Tellier ». Ben dans la Drôme, ça marchait bien, quoi. J'avais plein de gens qui étaient prêts à m'aider. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui étaient prêts à m'aider tout de suite et qui ont vraiment fait un travail formidable pour moi. Je ne les remercierai jamais assez. Ça fait, ils sont remerciés à la fin, mais vraiment, que ce soit Philippe Piolet, que ce soit Francis Laurent, que ce soit Béatrice Jouve, qui sont les gens qui travaillent à l'ANACRE, Association Nationale d'Anciens Combattants et Résistants, m'ont donné en fait une ouverture complète sur André Scheck, ce qu'ils ont retrouvé pour moi en fait. Puisque eux-mêmes ne savaient même pas qu'ils avaient la boîte.
Oui, c'était un des nombreux
héros anonymes. Voilà, et puis ils ont retrouvé par hasard cette boîte et ils me l'ont donnée en courant 2023.
Ce qui est très romanesque quand même.
Oui, c'est très romanesque.
Un romancier, c'est quand même...
C'est formidable.
Le déclencheur est presque trop beau.
C'est trop. À un moment donné, on a l'impression que les fées se penchent sur le berceau du bébé, quoi. Et comme je disposais de tout ça, il y avait une sorte de logique à le mettre au centre et à ne pas oublier que c'est grâce à lui que je faisais le livre... C'était pour lui que je faisais, voilà. Alors après, c'est la question que je pose au début et une question aussi que je posais dans le livre, c'est une question comment est-ce qu'on se positionne en termes de distance par rapport à un sujet pareil qui est un sujet plus important que moi. Et ça, c'est compliqué au niveau à la fois narratif, et, y compris je voulais retrouver ça dans le documentaire, c'est-à-dire ne pas perdre. Cette question du positionnement de l'auteur par rapport à son sujet et le mettre, c'est pas noir sur blanc parce que c'est audible, mais le rendre visible et audible par le spectateur. Savoir comment est-ce qu'un auteur se positionne par rapport à un sujet qui est celui d'un jeune résistant qui meurt à 20 ans. Et ça me paraissait utile de garder donc à la fois l'introduction et l'épilogue qui sont deux manières d'entourer ce questionnement. Le reste, après, c'était qu'est-ce que je décidais de garder ou pas. Et j'avais des priorités. Je voulais garder, comme je l'ai dit, tout ce qui concernait André et Simone, tout ce qui était la résistance dans la Drôme, et puis des choses qui sont qu'est-ce que le fascisme, la naissance du Front National, que je voulais surtout pas supprimer. Voilà.
La renaissance du Front National, justement.
Oui, la fausse renaissance du, enfin l'appropriation du nom Front National par le Front National, alors qu'en fait le Front National c'est par définition la résistance, donc c'est incroyable que ça soit repris et que ça a été autorisé d'ailleurs d'être repris en 72 sous Pompidou par Pompidou lui-même. C'est très étonnant qu'il ait autorisé qu'on reprenne ce nom de Front National, mais bon, après tout, il n'y avait pas de dépôt de marque, comme dirait l'autre. Donc, c'était possible. Donc, ça m'intéressait d'en reparler dans ce contexte. Et je revois des moments de ce film-là en me disant que quand j'écris que les fascismes vont plus vite que toutes les démocraties, on est vraiment dedans, quoi.
Oui, enfin là, ça résonne de façon terrible.
Ça résonne, quoi. Voilà. C'est un film d'actualité, quoi.
Alors, vous, la particularité, c'est que vous prenez l'infiniment petit et que vous l'ouvrez à l'histoire tout entière.
Oui.
Hein. Donc, il fallait être sur le fil en permanence. Le destin d'un homme et le destin d'un peuple, ou le destin d'un continent.
On est sur la crête.
Voilà, en permanence.
En permanence, réinsérer un destin très individuel et très singulier au sein d'une histoire très collective et très contemporaine en même temps.
Et qui va un peu partout, parce que vous n'avez pas oublié le cinéma,
oui.
Les acteurs, la chanson, hein, pour rappeler que c'était un être jeune, vivant.
Oui, voilà, c'est ça.
Hein, qu'il fallait voilà.
C'est mettre de la vie là où j'avais que de la mort. Voilà.
Alors, ce qui n'est pas un risque de lyrisme, un peu, est-ce que vous craignez pas toujours d'en faire trop, c'est-à-dire de créer une sorte d'allégorie ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous étiez tout le temps dans une forme de retenue?
Oui, oui, j'étais dans la retenue, puisqu'il n'y a pas le livre, si on le regarde bien, il n'y a pas de moment lyrique.
Enfin, est-ce que le lyrisme ne naît pas justement de cette absence de... poignant du film?
Je suis pas là pour juger, mais pense que la meilleure manière de tuer le lyrisme, c'est d'en faire.
C'est d'en faire.
Voilà. Il y a un auteur du 19e siècle qui est Rémy de Gourmont et qui dit « Écrire bien, c'est écrire mal ». C'est une phrase que j'ai tout le temps en tête. Et donc, il faut tout le temps se garder d'écrire trop bien et de se laisser aller à écrire au-delà de son sujet. Voilà. Philippe Lançon appelle ça « écrire sous soi ». Ce qui est très méchant. mais il a raison, c'est un des dangers, c'est-à-dire être pris par... se laisser aller à des mauvais penchants. Parce que pour un auteur, c'est un mauvais penchant que de ne pas maîtriser son écriture et de se croire, comme on dit.
Alors un mauvais penchant aussi, c'est le sentimentalisme.
C'est le sentiment, c'est les bons sentiments.
Alors moi, je vous lis depuis très longtemps, et je me souviens quand j'ai lu « Le voleur de nostalgie », il y a fort longtemps, il était par Fournel, j'ai dit, c'est un magnifique roman d'amour. Et depuis, j'ai l'impression que vous avez écrit beaucoup de romans d'amour. et oui. qu'on ne dirait pas a priori Hervé Le Tellier est un romancier de l'amour. Moi, je crois le contraire. Mais on a l'impression que Simone,
par exemple, le prix du roman d'amour.
Oui, donc il y a quelque chose quand même.
Attention.
Les romantiques savent vous trouver. Ouais. Et j'ai l'impression que, alors effectivement, c'est un voyage, une rencontre avec André, mais Simone est un personnage auquel vous semblez plus qu'attaché. Il y a une forme d'attache.
C'est un personnage qui est bouleversant. Ouais.
Là, on la voit en image dans le livre, mais vous en parlez comme de quelqu'un que vous auriez presque connu. Vous parlez
de sa beauté. J'ai vu sa fille, donc j'ai rencontré sa fille qui parlait de sa mère quasiment comme d'une sainte et qui a sans doute raison. C'est-à-dire que la vie de cette femme a été d'abord marquée par un double deuil. Donc ensuite, elle en triomphe. On voit que c'est une femme qui sort d'une famille ouvrière qui va travailler dans une filature, ensuite dans une fabrique, je crois, de toile. Enfin, donc elle a une vie très difficile au début. Ensuite, on voit bien aussi à la généalogie que la naissance de son enfant en 46 se fait peu de temps après la mort de son fiancé. Mais enfin, on est jeune, on a le droit de vivre, quoi. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui me paraît le plus évident, c'est que elle est dans le devoir même de vivre. Je trouve ça très beau, en fait. L'idée qu'elle a un enfant très peu de temps après, même si les circonstances sont sans doute un peu particulières, mais le fait qu'elle triomphe de tout ça et qu'elle vive, oui, ça en fait un personnage très singulier. Et j'avais assez peu d'éléments sur elle, j'ai pas voulu broder, parce que une des questions aussi dans cette manière d'aborder les personnages qui sont de fait historiques, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette question de l'histoire? Est-ce qu'on en rajoute? Est-ce qu'on n'en rajoute pas? Est-ce qu'on romance l'histoire ou pas? Moi, j'ai pris le choix de ne jamais romancer, c'est-à-dire de prolonger.
De ne pas boucher les trous, par exemple. De pas boucher les trous.
De ne pas boucher les trous avec de l'invention.
Ouais.
Et par contre, de prolonger des fils qui sont des fils vraiment évidents, où je peux penser que oui, c'est vrai. Il y a trois fils comme ça que je prolonge. Le premier, c'est le fait qu'il fasse de la boxe, et je suis sûr qu'il en fait avec Henri-Pierre Rocher, parce que franchement, le club de boxe, c'est 30 personnes, donc ça va, 3000 habitants, 30 personnes pour un club de boxe, c'est déjà beaucoup. Donc on peut imaginer qu'ils ont fait de la boxe ensemble, d'autant plus que le seul prof de boxe, c'est Henri-Pierre Rocher, donc ça va assez vite. Le deuxième fil que je poursuis, c'est celui des frères Jacques, parce que je trouve assez logique, effectivement, ils se connaissent avec François Soubéran, et cette amitié entre deux que je ne peux pas vérifier, puisque par définition François Jouvéran est mort et André Chaix aussi, donc après c'est que des déductions. Toute une chose comme ça dont je peux poursuivre les fils, ça m'intéresse. Mais par contre, inventer, boucher les trous avec un ciment fictif, non, ça me paraissait non seulement pas possible au niveau rédactionnel, enfin strictement de l'écriture, mais aussi un peu malsain.
Oui, un peu moral même.
Un peu immoral, oui. Enfin, si tant est qu'on puisse mettre de la morale dans l'affaire,
mais il y a quand même une forme,
oui.
Vous le dites, de morale dans ce travail, qui est vous donnez le sentiment de vous donner un devoir moral quand même, de rendre justice à quelqu'un.
Enfin, je pense que d'abord les anonymes méritent qu'on leur rende justice. Voilà, ils sont très nombreux à être tombés pendant cette guerre pour que, entre guillemets, la France soit libre. Ensuite, il y a un deuxième devoir qui, au-delà de l'anonymat, c'est que les gens cessent de l'être très vite et que finalement, André Chaix, c'est une relation bizarre, mais ça devient au bout d'un moment un personnage avec lequel je vis et donc un individu que je connais. Donc il y a une sorte de pudeur à ne pas aller au-delà de ma propre place, à lui donner la sienne à lui. Et c'est une question éthique, oui, effectivement, d'auteur, de savoir quelle place on occupe dans cette narration. J'ai des contre-exemples en tête, que je ne citerai pas, dans l'écriture de livres qui parlent soit de la Shoah, soit de l'occupation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai des exemples qui sont des exemples positifs. Pour moi, j'ai les livres qui m'ont marqué, et qui c'est Dora Brouder de Modiano, c'est le Pardon de Jean Kélévitch, des textes comme ça qui sont des textes de réflexion sur le positionnement à la fois d'un écrivain par rapport à un sujet et aussi de la réflexion d'un philosophe par rapport à un sujet. Ces deux questions m'intéressent. J'essaye de respecter comme je le disais, à la fois l'anonymat et l'incarnation. Les deux sont présentes. L'incarnation, il ne faut pas, justement, puisqu'il s'incarne, il ne faut pas le transformer en plus grand qu'il n'est, ni autre chose qu'il n'est. C'est un jeune paysan qui devient, enfin, fils de boulanger, qui a travaillé d'abord dans les champs aussi, qui a aussi été ouvrier céramiste, etc. Donc, il est possible néanmoins qu'il devienne exactement comme François Soubéran, qui est céramiste. Oui, voilà. Tout est possible. Et, mais il faut pas non plus glorifier. Voilà. La place des... En plus, je ne crois pas à la gloire pour qui que ce soit. Donc, je pense que les gens sont parfois... Comme il y a des salauds qui sont dépassés par eux-mêmes, genre Lacombe Lucien, je pense qu'il y a des héros qui sont dépassés par eux-mêmes. Il y a une citation de Samuel celle de Thomas Fuller que je cite. Samuel Fuller. En fait, c'est Thomas Fuller, qui est donc ce philosophe anglais du 18e, qui dit cette phrase formidable que je garde, qui est « Beaucoup de gens seraient lâches s'ils en avaient le courage. »
Paradoxe très britannique, voilà.
C'est très britannique, mais quand on y réfléchit, c'est tellement intelligent.
Comme souvent les Britanniques, hein.
Ça leur arrive.
D'ailleurs, ils ne perdent pas les guerres.
Ça leur arrive.
Alors, le mot est plus trop employé, mais ça donne le sentiment que votre texte, le film aussi, rentre dans le segment de ce qui est engagé, de l'engagement. La littérature engagée, on a l'impression que ça n'existe plus du tout. C'est même devenu suspect. Hein. On considère que Sartre est un bon philosophe, mais un médiocre écrivain. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une forme d'engagement oui, moi j'en ai le sentiment. Hein. Mais est-ce que déjà ça vous trouble qu'il n'y ait quasiment plus de littérature engagée, à part dans l'engagement de soi-même? Est-ce que ce mot vous gêne?
Non, le mot me gêne pas. Je pense qu'on ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments, ça je le pense vraiment. Et donc il faut s'en méfier. Mais ça m'arrive d'avoir des bons sentiments, hein, c'est pas la question, mais j'essaye en permanence de pas imprimer ces bons sentiments sur mes propres textes. Mais l'engagement n'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Ce qui me gêne, c'est que le texte engagé parfois est contre-productif, c'est-à-dire coupe d'une partie non négligeable de son public sans pour autant l'emmener vers l'engagement vers lequel on souhaite l'entraîner.
Et là,
donc j'aime bien que la fiction elle-même porte en soi des questionnements qui peuvent emmener à l'engagement. Ça, c'est une autre question.
C'est pour ça que vous n'avez pas utilisé la fiction, d'ailleurs, dans ce texte engagé.
Non.
Là, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas d'utilisation d'un personnage.
C'est pour ça. En revanche, dès que je fais de la fiction, j'essaye en permanence que les questions que je peux poser et qui portent la question, non, pas forcément des questions politiques, justement, j'essaie qu'elles soient masquées derrière des questions qui sont purement pratiques et purement narratives.
Oui.
Je pourrais donner, par exemple, dans l'Anomalie, qui est un livre qui, comme vous le dites, a bien marché. Les trois questions que je pose, qui sont des questions qui portent la question des homosexuels, la question du réchauffement climatique, la question des guerres, comme la guerre de l'Irak, etc., la question de l'inceste, etc., je les aborde par une voie narrative. Évidemment, j'ai une position dessus. Et je pense que ce sont les personnages qui doivent entraîner le lecteur par ce que Coleridge appelait la suspension volontaire du fait de ne pas croire. C'est cette idée que les personnages eux-mêmes doivent porter des opinions qui doivent emmener le lecteur à lui-même prendre des positions. Mais ce n'est pas en lisant la position du narrateur ou en lisant la position de l'auteur qu'on emmène les gens à soi. Je pense que c'est par les personnages qu'on les emmène. Mais c'est un choix personnel. J'ai pas de position contre. Et en plus, je pense que Sartre fait de assez bons livres engagés. Et Malraux fait de très bons livres engagés.
Les chemins de la liberté, vous avez lu
ça. La liberté, c'est formidable.
Oui. Non, mais je parle de Sartre. C'est vrai que parfois, il est un peu démonstratif.
Oui, oui. C'est un peu démonstratif, oui, bien sûr. Mais Romain Rolland aussi, c'est...
Oui, mais qui lit encore Romain Rolland, malheureusement
Personne ne lit Romain Rolland.
Jean-Christophe. Alors justement, on parle d'écrivains. Votre texte et le film est parcouru de noms d'écrivains. Les références, c'est... Alors vous, c'est pas la musique, hein, même si vous parlez d'Yvonne Lefébure un peu. Mais les écrivains apparaissent à tout propos. Est-ce que c'est parce que c'est vos références? Alors je m'attendais à voir Queneau est arrivé. Je signale d'ailleurs que c'est les 50 ans de la mort de Raymond Queneau.
Oui,
est-ce que vous savez s'il va se passer quelque chose autour de Raymond Queneau? Parce que Gallimard n'a pas l'air très prêt à faire grand-chose. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un de Gallimard dans la salle, mais avez-vous entendu parler de quelque chose?
Avec Eduardo et avec Blanche, on va sortir pour les... pour les 50 ans de la mort de Raymond Queneau, on va sortir un magnifique petit livre qui va être une sélection des 100 000 milliards de poèmes sur une base raisonnée.
C'est-à-dire qu'il n'y en aura qu'un milliard.
C'est-à-dire que non, mais il y en a 100 000 milliards, mais dans les 100 000 milliards, on va en retenir 100 qui sont ceux qu'on obtient en sélectionnant les languettes sur des bases très précises. Par exemple, on va garder toutes les languettes qui font appel à la mythologie, toutes les languettes qui sont à l'imparfait, toutes les languettes qui parlent de la mort, toutes les languettes qui parlent de l'amour.
D'accord.
Et ça fait un effet très, très intéressant. D'accord. Voilà, ce sera le petit hommage de l'Oulipo et de Gallimard pour le cinquantenaire du décès de Raymond Queneau. Et je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont être faites, mais il y aura au moins ça.
Non, mais je le glissais comme ça, ça permet
de... Mais vous avez raison,
mais c'est vrai
il est bon de le rappeler.
Tous les écrivains sont là, Céline et Rebatté, il y a les méchants, puis il y a les gentils, il y a Primo Levi, il y a Malraux. Est-ce que c'est... Parce que c'est votre façon de fonctionner quand vous...
Bah, je fonctionne comme ça.
En fait, c'est-à-dire que les écrivains... Voilà.
Je baigne là-dedans, donc ça m'est assez naturel et j'essaie de me retenir.
Pourquoi vous pensez que ça peut déranger?
Ça pourrait être pire. Ouais, je pourrais être bien pire que ça.
Vous avez l'air de la citation.
C'est horrible. Mais
pas horrible, non. C'est plutôt.
Non, c'est comme ça. C'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai travaillé 15 ans, je travaillais pour Le Monde dans un petit billet quotidien. Et dans ce billet quotidien, quand vous faites ça tous les jours, j'en ai fait quoi, 7000. Ça fait beaucoup parce que j'en faisais deux pour Le Monde pendant 15 ans. Vous faites le calcul.
Un pléiade.
J'en ai fait beaucoup. Et donc, au bout d'un moment, vous passez votre temps dans les différentes citations à chercher comment vous pourriez tirer quelque chose d'une citation. Et voilà. Donc, j'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai quand même un peu lu. Donc, les choses me viennent assez naturellement. Et je ne suis pas hyper mnésique, mais il y a des choses que je retiens quand même quand ça, vraiment, ça me plaît. Que ça va de la phrase de Malraux où il définit incroyablement bien le fascisme. Et d'ailleurs, j'en ai vu une expérience tout à fait récente, qui est le moment où Donald Trump invite Mme Dany. Vous vous souvenez de cette séquence?
Oui, mais c'est... Il est assis, l'autre est debout.
Elle est fascinante. Mais c'est quoi? C'est un fasciste qui invite quelqu'un qui a gagné. Et il a une fascination pour celui qui gagne. Et c'est cette phrase que je cite, où ils sont toujours du côté des vainqueurs, par fascination, ce culte du chef. C'est un peu ça, en fait, que... Qu'à Trump lorsqu'il invite Mme Dany. C'est aussi cette fixation pour le vainqueur, quel qu'il soit. C'est très étrange, hein, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on n'a absolument pas intérêt à négocier sur le Groenland. Il faudrait envoyer le porte-avions Charles Gaulle tout de suite au Groenland.
Hein. Si, il arrive.
Non, mais la logique, ça serait ça. Parce que c'est une logique uniquement d'admirer les forts. Bon, Mme Dany devient fort, Trump l'invite. C'est comme ça que ça fonctionne, un fasciste. Donc, une sorte de fascination pour la force. Donc, il faut savoir qu'ils sont comme ça, et donc il faut réfléchir comme ça et réagir comme ça.
Alors, il y a une citation que vous faites pas, mais peut-être parce qu'elle est trop tarte à la crème, mais c'est Paul Nizan, qui est mort au combat, et dans Aden Arabi, qui fait cette j'avais 20 ans, et c'est je ne laisserai à personne dire
de dire que c'est le plus bel âge de la vie. Voilà.
Ça, c'est un oubli ou c'est la volonté de ne pas tomber dans cette tarte à la crème?
Je voulais pas,
Non, mais déjà de la retourner et de dire que finalement. Cet homme a combattu tout en disant qu'à 20 ans, c'est horrible
de se battre. Non, j'ai pensé à cette... c'est partie des choses que je n'ai pas mises. Voilà. Parce qu'en plus, j'avais déjà cette... Sur les 20 ans, j'avais déjà ma propre référence de mes propres 20 ans. Et en plus, il y a un vrai danger à citer tout le temps. Donc, j'essaie de me limiter. Il y avait une phrase de Sénèque que j'avais... Je m'en souviens dans... Je prends cet exemple parce que
qui est dans le livre.
Dans l'anomalie, il y a un début de phrase qui est tiré de Sénèque et j'ai supprimé Sénèque parce que mon éditrice m'a dit non mais arrête, tu nous fais chier avec tes citations. Et donc j'ai supprimé Sénèque. Je dis bon, c'est de moi et je l'ai un peu transformé. Et cette phrase, elle est formidable. C'est les hommes fatigués sont querelleurs, qui est une phrase de Sénèque. Et j'ai ajouté juste les hommes épuisés le sont un peu moins. Et c'est une façon d'être en rapport, en fait. Donc, j'ai supprimé Sénèque, parce que ça faisait beaucoup. Mais c'est une façon d'être en rapport en permanence avec une sorte de petite... comment dire, de bande-son intérieure culturelle que j'ai, qui ne me quitte pas souvent, et de lui rendre un peu hommage. Et sur Nizan, oui, j'y ai pensé. Mais une fois de plus, ça faisait beaucoup, quoi.
Oui. Non, mais c'est amusant, parce qu'il y avait beaucoup de citations.
Voilà. Je n'ai pas mis non plus que... On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Donc,
oui. Voilà. Alors, c'est un livre aussi où on a le sentiment que vous pouvez digresser un peu. C'est-à-dire que...
Ah oui, je digresse.
Voilà. Ce qui est aussi une de vos techniques, qui consiste à prendre des voies de côté et revenir.
En fait, je pars du principe que lorsqu'un truc m'intéresse et que je digresse, ça intéresse le lecteur aussi. c'est un truc un peu gonflé, mais par exemple sur le Titanic, moi j'ai découvert en fait. Quand je travaille sur un livre, je découvre beaucoup de choses et je me dis, mais c'est intéressant ça. Et je me dis, forcément, ça va forcément intéresser le lecteur, puisque moi ça m'intéresse. Ouais. Mon lecteur implicite, c'est moi. C'est bon,
il est exigeant, mais il est.
En tout cas, c'est très proche de moi. Mon lecteur implicite, celui que j'imagine me lire ou celle que j'imagine me lire, elle est très proche de moi ou il est très proche de moi. Et donc, quand quelque chose commence à m'intéresser, je me dis, bah, si je le raconte bien, ça va l'intéresser. Et en plus, j'ai une deuxième technique qui est un peu perverse, qui est de dire, si ça t'intéresse pas, saute 5 pages. En fait, évidemment que ça va intéresser la personne. Déjà qu'on lui dise de sauter 5 pages, ça l'agace. Donc la personne, elle va lire, par exemple, dans le bouquin, il y a, sur le mur, il y a un long passage sur moi quand j'étais enfant en Angleterre, où on nous emmenait voir des batailles en modèle réduit, toujours des défaites françaises. Donc c'était vachement agréable. Il y avait Trafalgar, voilà, c'était quasiment que des défaites françaises. Et on les voyait en modèle réduit, et je me disais, est-ce que je raconte ça ou pas? Et en fait, je le raconte parce que ça permet de parler aux penseurs, et je parle des penseurs, je raconte comment sont faits les penseurs, je parle un petit peu de la Blitzkrieg, et je me dis, même si moi ça m'intéresse, si je le raconte bien, ça va m'intéresser mon lecteur. Et je pense que c'est pas un mauvais principe, parce que il n'y a pas vraiment de plan dans un livre, je ne devrais pas dire ça, parce qu'un oulipien devrait toujours avoir un plan.
Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas un livre a priori oulipien.
Non, ce n'est pas un livre a priori oulipien. Ah. Les oulipiens ne sont pas forcés de faire des livres oulipiens.
Voilà, ils peuvent toujours faire croire qu'il y a quelque chose.
Je parle sous le contrôle d'Eduardo. Voilà. Donc, on n'est pas forcé de faire des livres oulipiens. Et en l'occurrence, ce qui m'intéresse dans la digression, c'est que ça permet de revenir ensuite au sujet. Ça n'empêche pas de revenir. Quand j'ai découvert, par exemple, l'histoire du Titanic de Goebbels, l'histoire du film Le Titanic de Goebbels, qui est une histoire tellement étonnante, je me suis dit que si je la racontais pas, c'était dommage pour mon lecteur. Et donc, je me suis dit, si c'est dommage, je la raconte, parce que quand même, c'est fascinant. J'ai un ami que vous connaissez, qui est Grégoire Bouillet, qui, lui, est encore plus dingue de la digression.
Alors, il en a la même façon. Oui, voilà. Ou Philippe Génada qui arrive à 500 pages sur un fait divers.
Voilà. Donc
il y a une jouissance là de la digression. Oui, 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 vous n'allez peut-être pas jusque là.
Je vais pas jusqu'à ce que fait Grégoire qui fait un livre dans le livre. Je pense au dossier M où il fait dans le livre un livre complet consacré à Donald Crawford, qui est ce navigateur qui fait une fausse course autour du monde. Et qui finit parce qu'il a menti par se jeter de son bateau en devenant fou. Voilà. Et dont on retrouve le bateau vide au milieu de l'Atlantique Sud. Donc, il y fait un livre complet à l'intérieur. Si on devrait regrouper toutes les pages consacrées à Donald Crawford, ça serait la taille du long sur le mur. Donc, vraiment, il digresse beaucoup. Et moi, j'adore ça, en fait. Donc, si j'aime ça, je me dis qu'il y en a d'autres qui doivent aimer ça. Donc, on peut se permettre ce genre de choses. L'important dans, je pense en plus que la digression, c'est comme on a un tronc, c'est bien qu'il y ait plein de petites boules accrochées comme un arbre de Noël avec des choses qui permettent de voir que le monde du roman a une très grande diversité potentielle.
Oui, vous avez prononcé le mot potentiel.
Oui, c'est intéressant. Mais la potentialité, c'est le sens d'un destin inachevé, comme celui d'André Chax. Tous les destins potentiels, c'est intéressant de les regarder et de voir ce que ça peut donner.
Alors, justement, votre dernier texte, ce n'était pas de la fiction. Est-ce qu'on a besoin, après avoir fait une super fiction, comme l'Anomalie, de s'en déprendre en étant dans le documentaire, etc. Parce qu'il y a un âge aussi où on perd un peu confiance dans la fiction. Est-ce que la fiction est sur le côté ou est-ce qu'elle vous guette l'histoire d'amour se profile?
Moi, j'ai pas du tout perdu confiance dans la fiction. C'est juste que il y avait cette échéance de l'anniversaire du centenaire. Je tenais à l'honorer, voilà, à ne pas rater ce rendez-vous. Donc, je voulais que le livre y sorte en avril 2024 pour que, au moment où il y a sa date de naissance en mai, le livre soit disponible et lisible. Donc il y avait cette échéance. Moi, j'ai une très grande confiance encore dans la fiction. Je ne fais pas partie des gens qui la rejettent. Simplement, je travaille sur un livre qui est long. Parce que dedans, il y a 3 fictions et qu'elles s'enchaînent et que c'est compliqué à construire. Mais le prochain roman sera une fiction. Et je ne vais pas non plus abandonner une autre chose que j'aime beaucoup, qui est le texte court et le fragment. Vous qui publiez l'autofictif de Chevillard. Vous savez à quel point c'est quelque chose de jouissif que le texte court. Oui.
Même s'il a peu de lecteurs, ça fait quand même...
Je ne sais pas s'il a peu de lecteurs.
On a l'impression que...
Il m'a moi comme lecteur.
Voilà. Non, mais les lecteurs ont soif de romanesque.
Oui, oui.
Moins de brièveté.
Vraiment, le roi, c'est le roman. Voilà. Et l'enfant maltraité, c'est le texte court. Voilà.
Vous qui avez fait du ultra court.
Ultra court. Mais moi, j'adore les textes ultra courts. Ça va de Félix Fénéon en passant par Ambrose Bierce, en passant par... Je trouve que c'est des lieux... Même Kafka, il y a des textes très courts de Kafka. Moi, je trouve que c'est des lieux d'expression qui sont merveilleux, parce que ça ne fonctionne pas du tout comme le roman. Ça doit être des petites perles, des petits cristaux. C'est... Voilà. Il y a parfois des... Je me souviens de textes extrêmement courts de Philippe Cousin. J'en ai deux en tête. Le premier, c'est une nouvelle. Je vais vous lire intégralement la nouvelle. Ça s'appelle « À l'hôpital ». Ça, c'est le nom de la nouvelle. Et le texte, c'est « Le grand brûlé s'est éteint ». C'est un peu noir. Mais c'est le genre de texte court que j'aime bien. Bon, il y a pire. Hein, y a Hemingway, avec son célèbre « Sa nouvelle en six lignes ». En six mots. Nouvelle en six mots, c'est « To sell baby shoes never worn ». À vendre chaussures de bébé jamais portées. C'est la pire de toutes. Je crois que c'est apocryphe. Hein. C'est pas de Hemingway, mais ça fait rien.
Mais le meilleur Hemingway, c'est souvent pas de lui.
Ouais. Et c'est comme Oscar Wilde. Ouais. Voilà. Et une autre de Cousin que j'aime bien, c'est une sorte d'hommage à Félix Fénéon. Ça s'appelle un coup. C'est, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un miracle. Ça s'appelle un miracle, je crois. Et c'est un couvreur tombe du toit par chance. Un tas de briques amortit sa chute.
Donc c'est bref et c'est noir.
Il faut un certain temps pour comprendre que non, ce n'est pas par chance qu'un tas de briques amortit sa chute. Voilà. Et ça c'est formidable. Voilà. Donc j'ai une affection pour le texte court et donc les trois marchent ensemble avec le théâtre aussi. C'est bien de travailler dans plein d'univers.
Le théâtre, vous êtes tombé dans le théâtre d'ailleurs un peu presque par chance. Enfin, ouais. Vous n'étiez pas un dramaturge. Et finalement, non. On a fait de vos textes des pièces de théâtre. Vous êtes
j'ai vu beaucoup de textes adaptés. Donc à force, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais en faire. D'accord. Et j'ai commencé à en faire vraiment avec une commande de François Morel, qui était moi et François Mitterrand, qui a été joué par Olivier Broche.
Beaucoup. Et qui n'en finit plus, enfin, qui changera à chaque président de la République. Vous ferez une édition augmentée.
J'aimerais ne pas avoir à faire, moi et madame la présidente. Voilà. Oui, je crois qu'elle ne pourra pas.
Oui, donc il y aura un autre risque. Bon, l'heure tourne et on a eu le film a occupé beaucoup de temps. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous,
Abel Tellier, de nous avoir proposé ce film. Merci à vous.
Merci.